Vous écoutez
RMC.
Jeudi 14 mai,
l'info sur RMC.
Il est 8h03, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le secteur du tourisme sous perfusion. Le gouvernement annonce ce matin un plan d'aide massif, près d'1,5 milliard d'euros débloqués pour aider les professionnels à se relever de la crise du Covid-19. L'Union européenne appelle d'ailleurs ses pays membres à rouvrir les frontières pour sauver le tourisme. Notez que la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, sera l'invitée de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Inacceptable que Sanofi serve en premier les États-Unis. Réaction à l'instant d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie. Si un vaccin est trouvé, le laboratoire français servira d'abord les Américains, premiers investisseurs. Bienvenue à tous sur RMC. Sauvera-t-on le tourisme quoi qu'il en coûte? Ce matin, à 9h, un comité interministériel se réunit en vue d'aider le secteur figé depuis la propagation du Covid-19. Un plan inédit va donc être annoncé. Il faut dire que l'enjeu économique est colossal. Plus de 7% du PIB pour ce secteur qui emploie quelques 2 millions de personnes. À Ingisheim, près de Colmar, dans le Haut-Rhin, les hôteliers et restaurateurs alsaciens ont peur de ne plus voir les touristes. Reportage signé Maxime Brandstatter et Caroline Philippe.
Les pages du carnet de réservation sont blanches.
Tout est gommé, tout est vide. Il n'y a plus une réservation.
L'hôtel de Philippe Lambert affiche complet normalement à cette période de l'année.
Depuis le début mars, les gens ne réservent plus et ne font que d'annuler. Tous les étrangers, bien sûr, ont annulé souvent les premiers. Et les Français vont attendre pour pouvoir réserver. Donc, est-ce qu'ils vont venir en Alsace? Ça, c'est aussi la question.
L'autre question, quand ces établissements vont-ils rouvrir? De l'autre côté de la place du village, Bertrand Gély s'impatiente dans son restaurant tout aussi désert, dans lequel il a investi 4 millions d'euros il y a moins d'un an.
Je pense déjà à licencier la moitié de mon personnel. On vit du tourisme. Rendez compte, 20 restaurants dans un village de 1600 habitants, ça va être une année blanche. Déjà, on va être les derniers à être en rouge sur la carte.
Rouge, la couleur qui risque de faire fuir les touristes, explique Jean-Jacques Béter, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Haut-Rhin. Selon lui, il faut assouplir la règle des 100 km et rouvrir les frontières.
Avec le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, on peut peut-être encore faire une arrière-saison pour nous sauver de ne pas mourir, pas pour rattraper ce qu'on a perdu.
Dans le département, 13 000 personnes travaillent dans le secteur du tourisme.
Les frontières, on va y revenir dans un instant, mais d'abord, Pascal Fontenelle-Personne, qui est députée de La République En Marche de la Sarthe, elle était ce matin sur RMC, elle préconise que les primes de solidarité qui sont versées cette année, comme la prime Macron, soient transformées en chèques vacances.
Moi, j'avais préconisé que la prime Macron, l'année dernière, au moment des Gilets jaunes, soit peut-être fléché chaque vacances pour que on fasse du tourisme avec cette prime. Et c'est surtout que la prime Macron est quelque chose de simple à mettre en place pour les entreprises. Et donc ce fléchage serait vertueux pour aider notre tourisme aujourd'hui extrêmement impacté. La solidarité nationale touristique peut jouer à travers le chèque vacances.
Et pour tenter de relancer le tourisme, l'Union européenne appelle ses pays membres à rouvrir les frontières. L'épidémie circule encore sur le continent, mais la Commission veut éviter un naufrage du secteur touristique crucial pour l'économie de l'Union. Pierre-Yves Bonneau.
Et en matière de cacophonie au sujet des frontières, l'Autriche fait figure d'exemple. Vienne a déjà annoncé qu'elle rouvrirait ses frontières avec l'Allemagne le 15 juin et qu'elle étudiait la possibilité de le faire avec plusieurs autres voisins, sauf l'Italie, l'un des pays européens les plus touchés par l'épidémie. La France et l'Allemagne annoncent une levée des restrictions à leurs frontières mi-juin. Quant à l'Espagne, elle devrait maintenir ses frontières fermées jusqu'en juillet. Des décisions nationales au cas par cas donc. Or, pour la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, la réouverture des frontières doit se faire de façon concertée et non discriminatoire. Fermer les frontières, chacun de son côté, n'avait aucun intérêt sanitaire, résume un député européen La République En Marche. Les rouvrir en ordre dispersé est tout aussi inefficace d'un point de vue économique.
Marine Le Pen nous parlera des frontières de l'Union européenne dans quelques minutes, puisque Marine Le Pen sera mon invitée sur RMC et BFM TV de 8h35 à 9h.
Inacceptable, ce sont les mots d'Agnès Pannier-Runacher. Inacceptable que Sanofi serve en premier les États-Unis. Réaction de la secrétaire d'État à l'économie ce matin après la décision du laboratoire français qui a fait savoir que si demain il trouvait un vaccin contre le Covid-19, eh bien il en ferait profiter d'abord les Américains. Premier payeur, premier servi. Un argument qui ne passe pas pour Thierry Baudin de la CGT.
C'est purement scandaleux d'essayer de faire pression sur les Européens pour qu'ils participent aussi financièrement au développement de ce vaccin. Sanofi, chaque année, perçoit entre 110 et 130 millions de crédits d'impôt recherche de la part de l'État français. Sanofi a versé près de 4 milliards de dividendes aux actionnaires il y a quelques jours. Très clairement, les moyens financiers, Sanofi les a pour développer un vaccin. Les chercheurs, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, eux, ils ont une seule volonté, c'est de sauver des vies. C'est pas d'enrichir des actionnaires.
RMC 8h08, les grands magasins vont encore rester fermés au moins 2 mois. Pas de réouverture prévue avant le 10 juillet pour les Galeries Lafayette, le Printemps, ainsi que les grands centres commerciaux de Beaugrenelle et des Halles à Paris. Ce sont évidemment des milliers de salariés privés d'emploi. Les chiffres du chômage, d'ailleurs, pour le premier trimestre sont tombés. Une baisse en trompe-l'œil, dit l'INSEE, due au confinement de la deuxième quinzaine de mars. Moins 0,3 points au premier trimestre, 7,8%. Confinés, les demandeurs d'emploi ne se sont pas manifestés. Eux étaient très contents d'avoir repris le travail, mais lundi, les salariés de l'usine Renault de Sandouville en Seine-Maritime ont dû s'arrêter net. Pas le choix, le site a été mis à l'arrêt suite à une décision de justice. Le tribunal judiciaire du Havre, saisi par la CGT, a condamné Renault à suspendre ses activités puisque l'entreprise, je cite, n'assure pas la sécurité des travailleurs. Incompréhensible pour de nombreux salariés. Thomas Chupin.
Oui, il y a même un peu de colère chez Jackie.
Moi, j'ai plus peur d'aller à Auchan que d'aller au travail.
Il est chef d'équipe à Sandouville, 18 caristes sous ses ordres, et pour lui, il n'y avait aucun danger.
Premier truc qu'on faisait, c'était il y avait du gel hydroalcoolique. Deuxièmement, mec de la sécurité qui nous donnait 4 masques, 2 masques chirurgicaux, 2 masques FFP2. On avait un troisième point, c'était prise de température.
Mesure drastique aussi en salle de pause et sur les postes de travail. Sophie non plus ne comprend pas cette fermeture. Elle est intérimaire et ne travaille plus depuis le début du confinement. En mars.
Je suis toute seule avec mes 2 enfants. Mon grand travaille aussi en intérim. On se retrouve toujours à 2 au chômage. Je touche 800 euros par mois. Si on travaille, c'est 1600 euros. Donc là, ça commence à devenir très dur.
Plusieurs syndicats reprennent ces arguments sociaux, accusant la CGT d'être allée trop loin en saisissant la justice. Gérard Lecor de la CGT Seine-Maritime leur répond.
C'est pas nous qu'empêchons personne de travailler. Il y a des procédures qu'aujourd'hui, il y a une sous-estimation du risque vis-à-vis du Covid. Et ben, on voit aujourd'hui que sous la pression du patronat, il y a certaines organisations syndicales qui ont effectivement une posture qui nous surprenne.
Et la CGT menace à présent un autre site, celui de Cléon, également en Seine-Maritime, site qui reçoit plus de 3500 travailleurs.
Et le groupe automobile Volkswagen va interrompre en mai, pendant quelques jours, certaines lignes de montage, tout juste rouvertes. La raison, là, n'est pas sanitaire, c'est tout simplement que la demande automobile est très faible. Le 14 juillet prochain, la Nation rendra hommage aux soignants, reconnaissant symbolique voulue par le gouvernement, une médaille de l'engagement, le sera aussi décerné, Rémi Hink, et 1500 euros net maximum vont aussi être distribués dans 40 départements.
Oui, dans les 40 départements les plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus, départements des régions Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France, s'ajoutent aussi 4 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les Bouches-du-Rhône, la Corse et Mayotte. Les personnels des hôpitaux de ces départements vont donc recevoir une prime de 1500 euros net de tout, c'est-à-dire sans cotisation ni impôt. D'autres agents sont concernés en dehors de ces zones, ceux qui ont travaillé notamment dans les services Covid plus des hôpitaux qui percevront également cette prime de 1500 euros et ceux des autres services qui percevront eux une prime de 500 euros. Il faut encore la parution d'un décret pour préciser les modalités de ces primes. Les versements auront lieu à la fin de ce mois de mai ou à la fin du mois prochain. Notons que les soignants saluent en général cette prime et cette reconnaissance mais continuent de demander davantage de moyens, plus d'effectifs, plus de lits pour l'hôpital public.
Merci Rémi. Une belle initiative à l'honneur ce matin sur RMC. C'est celui d'un ancien champion du monde, le boxeur Hassan Ndam, qui toutes les semaines se rend à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne pour donner des cours de boxe au personnel soignant. Reportage Johan Tritz et Romain Pujol.
Allez, tourne, mets la pression. Essaye.
C'est dans une salle de jeu du service de pédiatrie aménagée pour l'occasion que le boxeur et ancien champion du monde Hassan Ndam donne ses consignes.
Présente-moi bien ton épaule. Si tu ne me présentes pas ton épaule, ton geste va être inefficace.
Un professeur de prestige pour tous les membres du personnel soignant, du chirurgien à l'infirmier. Masque sur le visage, blouse sur le dos et gants au poing. Tous ont besoin de se changer les idées en pleine journée de travail, à l'image d'Ernest Chavanne, chirurgien orthopédiste.
C'est un sport qui nous permet de défouler un peu, dépenser beaucoup d'énergie, on transpire, ça on a besoin. Mais dans notre métier, on a très peu de temps pour pratiquer une activité sportive.
Une initiative du franco-camerounais qui voulait rendre ce que l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges lui a apporté. Son beau-père a été guéri du Covid-19 dans l'établissement.
Je me suis senti un peu redevable et ça m'est venu comme ça dans la voiture avec ma femme. Je lui ai dit, écoute, je vais envoyer un mail à la DRH pour être bénévole et donner des cours de boxe.
Ndam est présent 5 fois par semaine et jusqu'à la fin du mois avant de retourner s'entraîner sur les rings.
Ça va bien. Bien, merci Céline. La boxe ? Non, Céline, ne faites pas
oui,
de boxe ?
Non.
Bon, d'accord. Bon.
Je vais m'y mettre.
Allez, il est quelle heure? Il est 8h13 minutes. Je reçois Hubert Mongon, qui est délégué général de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, en charge des dossiers sociaux au MEDEF. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler du télétravail.
Merci pour votre invitation.
Mais je vous en prie, on va parler du télétravail. Je vous rappelle que Marine Le Pen sera mon invitée tout à l'heure, 8h35, 9h. Ne ratez pas ce moment. Elle est avec nous en studio. Je la remercie d'ailleurs, comme une Anne Hidalgo hier, ce qui rend les interviews plus précises et plus percutantes. Il est 8h13, donc Hubert Mongon, le télétravail. Tiens, vous savez ce qu'on va faire, Hubert Mongon? Je vais prendre tout de suite Valérie, parce qu'ici, les auditeurs ou les auditrices sont prioritaires, il faut le savoir. Valérie est à mes yeux, c'est près de Lyon. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes en télétravail depuis le début de la crise, Valérie?
Oui.
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 Dans quel domaine?
C'est la prestation sociale.
Prestation sociale. Et vous dites, j'en ai assez. Je vis mal ce télétravail. Je pleure presque tous les matins devant mon ordinateur. C'est vrai, Valérie?
Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, parce que le problème, c'est que moi, je venais de changer de service et la formation n'était pas terminée quand on nous a bloqués.
Oui.
Donc, voilà.
Et c'est très dur pour vous?
C'est très dur. On est encadré, mais c'est pas pareil que quand on est au travail.
Oui.
On a de l'assistance technique, mais on n'a pas les personnes.
Bien sûr.
On n'a pas surtout nos supports, enfin.
Bien sûr.
Il nous manque toute notre documentation qu'on a laissée au travail.
Oui. Vous avez hâte de retrouver l'entreprise?
Ah oui, moi oui.
Oui. Hubert Mongon, vous écoutez. Valérie, restez avec nous.
Oui.
Vous écoutez Valérie, là?
Oui. Non, mais c'est très intéressant. Bonjour madame, parce que effectivement, on est face à un bouleversement majeur. On n'a jamais connu ça. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 millions de salariés qui ont été mis en télétravail pratiquement du jour au lendemain. Il y a maintenant 2 mois, on a du coup assisté à des bouleversements incroyables au plan social. Ça transperce même, y compris la société. Et il faut absolument qu'on fasse un arrêt sur image sur ce qui s'est passé. D'où l'initiative qu'on a prise au MEDEF d'essayer d'ouvrir une réflexion avec l'ensemble
avec les partenaires sociaux, avec les syndicats. Oui.
Et puis l'objectif, c'est vraiment de regarder en profondeur ce qui s'est passé. Ce que dit Valérie est juste. Et d'ailleurs, on a fait une enquête là la semaine dernière.
Et alors?
Et qui dit qu'effectivement, on connaissait tous les atouts du télétravail, c'est-à-dire les avantages, l'autonomie, l'organisation, des transports en commun simplifiés, tout ça on le maîtrisait. Ce qu'on a découvert, entre guillemets, c'est ce que dit cette auditrice, c'est qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont apparues. Madame parle de l'isolement, c'est un sujet, la solitude est un sujet. On s'est aperçu là aussi.
On est un peu perdu en plus.
Oui.
Regardez le cas de Valérie, elle n'a pas tous les éléments pour pouvoir. Elle n'avait pas fini sa formation. Elle n'a pas tous les éléments pour pouvoir assurer son travail comme elle a envie de l'assurer.
On est sur des cas. Elle a parlé également de management. C'est très important. Oui. C'est-à-dire que le management a découvert le télétravail à très grande échelle. Ça repose évidemment des questions de fond. On a eu évidemment des sujets techniques. C'est-à-dire qu'il faut être équipé avec les bons outils pour pouvoir travailler sereinement. Il faut être en contact avec son environnement. Ça pose des questions également au niveau, effectivement, de l'organisation personnelle, familiale. Comment on fait pour être en télétravail avec des enfants, quelquefois dans des logements qui sont pas toujours très spacieux. Toutes ces questions, il faut qu'on les regarde en profondeur. Et c'est tout le projet, finalement, qu'on a proposé il y a 2 jours. C'est de regarder ça, éventuellement d'en tirer des enseignements, parce que je pense qu'il faut aller plus loin aujourd'hui dans ce que l'on fait. Et puis, encore une fois, il n'y a pas une forme de télétravail. Et donc, moi, je me garderai bien sur ces sujets-là de tirer des règles.
Est-ce que vous avez vu que certaines entreprises, dans les GAFA, par exemple, veulent pousser le télétravail jusqu'en 2021, et même une entreprise, je crois que c'est Twitter, qui propose du télétravail à vie. C'est possible,
j'ai, non? J'ai entendu ça. Écoutez, je crois qu'il faut se méfier. Faut être prudent.
Je le serai autant que vous.
Par rapport à ces stratégies, d'abord, il faut que les sujets soient traités entreprise par entreprise. Et c'est, comme toujours, au plus près du terrain qu'on trouve des solutions.
On va mettre Laetitia avec nous. Merci, Valérie. On va mettre Laetitia, qui est toujours en région lyonnaise. Bonjour, Laetitia.
Bonjour, Jean-Jacques.
Bonjour. Le télétravail, vous avez commencé par télétravailler 2 jours par semaine.
Alors, oui, moi, il y a plusieurs années que je télétravaille 2 jours par semaine, mais ça, c'est un choix de ma part.
Oui.
Par contre, depuis le confinement, je suis en télétravail 5 jours sur 5. Et là, vraiment, je trouve que c'est très pesant, pas au niveau du travail, mais surtout au niveau des relations avec les collègues, voire du
monde. Ça vous manque?
Ça vous manque?
Moi, je me sens totalement... Pourtant, j'ai trois enfants, un mari, je suis toute la journée, ça va bien. Mais le fait de voir d'autres personnes, de prendre ma voiture, de m'habiller, là, limite, j'ai pas trop envie de m'habiller. Voilà, c'est...
Donc, c'est très intéressant, Laetitia, les conséquences sociales, les conséquences même sur la santé. Enfin, des salariés.
Des conséquences, il y en a sur plein de registres. On a parlé de management à l'instant, on a parlé de concessions sociales, sociétales, parce que ça,
bien sûr,
ça transperce complètement la société aujourd'hui. On a fait un sondage, nous, la semaine dernière, auprès de Opinionway, sur 1000 salariés, un peu de tous les secteurs. Qu'est-ce qui ressort? 83% des salariés nous disent qu'ils ont vécu une expérience plutôt positive. 83%.
Oui. Bon, ça,
du côté des chefs d'entreprise, parce que c'est important de leur poser la question aussi, comment ils ont vécu ça, parce qu'ils l'ont vécu de la même façon. On est sur des chiffres à peu près équivalents de 79%. Et quand on réinterroge les salariés en leur demandant s'ils sont prêts à poursuivre l'expérience d'une façon ou d'une autre pour l'avenir, 78% disent « Ok, ça a du sens, mais dans des contexte et des conditions qu'il faut regarder, mais voilà, j'ai pris goût à quelque chose, ça m'intéresse sans doute d'aller plus loin parce que en autonomie, parce qu'en organisation du travail,
majoritairement les salariés, les
exactement, et donc faut regarder ça encore une fois avec beaucoup de prudence et
chaque cas est exactement. Particulier,
il n'y a pas une forme de télétravail, on le voit bien dans les différents secteurs d'activité. Vous savez, moi j'ai passé 30 ans sur le terrain dans l'entreprise, il faut qu'on soit très attentif à ne pas recréer des règles qui soient les mêmes pour tout le monde, parce que les situations ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Merci beaucoup.
Merci d'être
venu nous voir. Télétravail, ça vous fait réagir, hein, Laetitia, Valérie, beaucoup d'autres.
On est sans doute à l'aube d'une petite révolution du travail.
Vraiment.
Il faut qu'on, oui, je pense, il faut qu'on y travaille maintenant.
Vraiment. Mais on peut le rendre plus agréable, le télétravail.
Ah, je pense qu'on peut travailler sur l'environnement.
Sur l'environnement.
De façon à le rendre, on va dire. Oui. Totalement satisfaisant, et c'est de ça dont on veut parler avec les acteurs sociaux, là, j'espère, dans quelques jours.
Bon, ben ça, c'est utile. Merci à vous, hein.
Merci.
Hubert Mongon. Il est 8h20, vous êtes sur RMC, Mathieu.
D'autres sujets qui devraient intéresser Hubert Mongon, d'ailleurs. La relance de l'économie, ce plan de sauvetage du tourisme, et puis des CDD, bientôt plus facilement renouvelables. Comment tout ça va marcher? Frédéric Simotel va tout nous dire dans un instant sur RMC.
RMC, Bourdin Direct.
Et donc Marine Le Pen, 8h35, 9h sur RMC, BFM TV. Marine Le Pen qui veut des masques obligatoires dans l'espace public et gratuits. Stéphanie est assez d'accord. La mairie m'en a fourni, un collègue aussi au début de la crise. C'est assez pratique que ce soit gratuit. Moana nous dit, dans d'autres pays, les masques sont distribués gratuitement à la population par l'État. Qu'est-ce qu'on attend en France? Marine nous dit, imposer les masques, ça ne va pas sans la gratuité. Sinon, c'est interdire la libre circulation pour les pauvres et les personnes en difficulté, selon Marine. C'est pas l'avis de Philippe. Quand on peut se payer des cigarettes ou aller chez McDo, on peut aussi se payer des masques, dit Philippe. Serge aussi est contre les masques gratuits pour tous les citoyens. Jean-Claude nous dit, si ça devient gratuit, bonjour le gaspillage. Il en faudra au moins 10 par jour et par personne. Philippe dit, il y en a marre du tout gratuit. En France, c'est fou, on n'a jamais assez. Est-ce qu'il faut rappeler qu'on est resté à la maison à 84% payé par l'État? Combien aussi ont été remboursés par les mutuelles? Et puis Jean-Pierre dit, on est incroyable en France, on veut un pays libre, démocratique. Mais quand il s'agit des masques, on demande à cet État d'être communiste à 200%. Faut savoir ce qu'on veut, dit Jean-Pierre.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct. Allez, il est 8h24 le matin sur RMC, RMC Découverte. Je vais prendre Sylviane. Allez, très vite, Sylviane, j'ai le temps, allez, tant pis. Sylviane, vous êtes dans la Loire, très vite, Sylviane, parce que
bonjour,
je suis pressée.
Bonjour, monsieur Bourdin, je suis ravie de vous avoir.
Et moi.
C'est formidable pour moi. Bonjour à toute l'équipe.
Bah, merci, Sylviane. Merci. Ça fait chaud au cœur. Allez-y, Sylviane.
Alors, moi, je suis infographiste.
Oui.
Il y a quelques temps, certains collaborateurs avaient demandé de pouvoir travailler en télétravail, bien avant le Covid. On leur a dit, non, là, c'est impossible. Et puis là, le 16 mars, on nous a dit, venez, prenez vos écrans à la maison et débrouillez-vous.
Alors, Sylviane, problème, parce qu'il faut aller vite, vous avez des problèmes, connexion Internet qui n'est pas au top, les fichiers qui sont lourds, donc source de stress.
Source de stress. Moi, je suis, comme votre auditrice précédente, il m'arrive de pleurer, voilà.
Oui.
Parce qu'on est obligé de travailler ensemble, qu'on est sans arrêt connecté au mail, ou à la visioconférence, au téléphone, c'est une source de stress totale. Il faut travailler de la même façon. Et on est sans arrêt en communication, on perd un temps fou, on n'avance pas, c'est une horreur.
Bien, voilà. Merci Sylviane, merci. Et je vous embrasse vraiment, Sylviane.
Merci.
Tellement heureux de vous avoir.
Bisous
avec
à toutes. l'équipe, vous êtes sensationnelle et je vous écoute depuis des années.
Bon, merci beaucoup Sylviane, 8h26. Frédéric Simotel, bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Jacques.
Le recours au contrat en CDD, durée déterminée, va être assoupli jusqu'en janvier 2021 au moins.
Oui, exactement. C'est un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres le 7 mai dernier. Vous l'avez dit.
Un peu passé inaperçu d'ailleurs.
Assouplir le statut des CDD. Et puis, il s'agit d'allonger la durée des contrats et puis de pouvoir renouveler plusieurs fois. Alors évidemment, l'idée, c'est de préserver l'emploi, d'avoir un emploi plus souple. Parce que d'ordinaire, un CDD, ça ne se renouvelle que deux fois pour un même poste.
Je me souviens de quelque chose.
Voilà.
Avec une ministre du Travail.
Exactement. Et pour des durées très précise et en plus quand votre dernier CDD a duré 6 mois, vous ne pouvez pas re-signer un nouveau CDD donc pour le même poste, il faut attendre 6 mois encore. Donc voilà, donc tout ça va être assoupli. Alors ça existe dans certaines branches déjà, mais là on va vraiment le faire pour tous les métiers. Ça permettra parce qu'aujourd'hui par exemple il y a beaucoup de gens qui sont en CDD et à cause du chômage partiel leur période de CDD s'arrête pendant le chômage partiel. Donc qu'est-ce qui se passe
Edouard Philippe va en parler ce matin à l'occasion de la présentation du plan d'aide au secteur du tourisme, hôtellerie, restauration.
Oui, ils vont en parler parce qu'évidemment, ça fait partie des mesures pour les hôtels et restaurations. On en a parlé lundi dernier, le montant global de 1,3 milliard. C'est ce plan de relance d'investissement pour le secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Et donc, ces CDD, ça va être un gros point fort aussi de ce plan d'investissement.
Merci Frédéric. Quentin Vinet, les masques. Vous avez des infos sur les masques?
Sur les prix, notamment.
Sur les prix des masques. Regardez, écoutez.
Les prix se sont envolés. Et puis, absolument partout sur la planète. Je vais vous donner quelques chiffres. En Irak, avant la crise, le paquet de 50 masques coûtait entre 2 € et 2,50 €. Maintenant, il coûte 25 €. Le même paquet de 50 masques. Au Liban, même exemple. Au Liban, il coûte maintenant jusqu'à 25 fois plus cher qu'avant la crise, selon les importateurs. Et puis, autre exemple, en Afrique du Sud, il y a deux entreprises qui ont carrément été assignées devant la justice. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient augmenté les prix des masques jusqu'à 1000%.
Mathieu.
Christophe nous écrit, ma femme, infirmière libérale, achetait avant le Covid la boîte de 50 masques 3,56 €. Aujourd'hui, 47,50 €.
Bien, les mêmes ?
Les mêmes.
Bien, merci. Marine Le Pen est notre invitée dans quelques minutes. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui travaillent avec moi le matin et toutes celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Merci vraiment d'être là. Toutes les équipes, le Standard et puis toutes les équipes autour de Mathieu Rouault, de Charles Magnin le matin, d'Anaïs Castagna, Quentin Vinet. Enfin bon, Frédéric Simotel, tout le monde. Merci d'être avec nous. Il est 8h29. Vous êtes sur RMC, RMC Découverte. Sur RMC, nous restons ensemble. Et nous serons dans un instant sur BFM TV aussi avec Marine Le Pen. À tout de suite.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin. Marine Le Pen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci d'être là avec nous en studio, comme Anne Hidalgo hier, ce qui rend les interviews plus précises, plus percutantes, plus rebondissantes et plus naturelles. Bien, ce début de déconfinement est-il un succès pour vous depuis 3 jours maintenant?
Moi, je pense qu'il est absolument impossible de dire si c'est un succès. Il y a eu un certain nombre de décisions qui m'apparaissait déraisonnable, je l'ai dit en son temps, dont la réouverture des écoles, et un certain nombre de couacs, notamment...
Mais est-ce que vous avez changé d'avis sur les écoles ?
Non.
Non ? Ce matin, j'avais les pédiatres sur RMC qui nous disaient qu'il fallait absolument que les enfants retrouvent l'école.
Non mais, d'accord, que les pédiatres expliquent que pour peut-être le bien-être des enfants, il est utile qu'ils revoient leurs camarades est une chose. Mais là, en l'occurrence, le politique, il est chargé de protéger la population et l'intérêt général. Dans l'ensemble des pays qui ont été fortement touchés, la décision a été prise de ne rouvrir les écoles qu'en septembre.
Ouais, enfin, deux pays, quoi.
Parce qu'il y a un principe...
Italie, Espagne.
Parce qu'il y a un principe de responsabilité. Oui, c'est pas tout à fait vrai, M. Bourdin, parce que le Japon a rouvert les écoles, il les a refermées. Bon, donc voilà, je pense qu'il y a un principe de responsabilité qui nous oblige, nous autres politiques, et que la réouverture des écoles m'apparaît, encore une fois, être déraisonnable. C'est en tout cas ce que pensent aussi la moitié des parents qui refusent d'y remettre leurs enfants.
Les enfants, eux, sont contents de retourner à l'école.
Oui, bien sûr.
Ben oui, c'est normal, c'est normal. Bon, allez, les transports en commun, ça se passe correctement ou pas? Il y a eu quelques problèmes dès lundi matin, dès les premières rames de métro de RER. Ensuite, ça s'est arrangé.
Alors, la question est la suivante. Pourquoi réduire l'offre de transport au moment où nous savons qu'il faut qu'à l'intérieur des transports, il y ait des règles de distanciation qui soient respectées? Or, pour l'instant, moi je pense qu'on aurait
Elle a été augmentée, l'offre de transport.
Non, mais il faudrait qu'elle soit totale, pardon, mais je pense qu'elle devrait être totale pour permettre.
Plus de monde dans les transports.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'il y ait moins de monde dans les transports qui fonctionnent précisément parce qu'il y en a plus d'offres de transport. Or, ça n'est pas le choix qui a été fait. Là encore, j'ai du mal à comprendre.
Mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif? De pousser les Français à prendre les transports en commun, ou de pousser les Français à télétravailler, ou de pousser les Français à prendre les transports en commun à certaines heures et pas à d'autres?
Monsieur Bourdin, tous ceux qui peuvent télétravailler, télétravailleront. Tous ceux qui sont obligés de prendre les transports, on est censé leur assurer un minimum de sécurité. Et pour cela, il faut respecter les distances, et pour cela, il faut qu'il y ait une offre de transport qui soit totale et non pas diminuée. C'est ça, en réalité, le bon sens. Une fois de plus, on parle de bon sens.
Alors, masque obligatoire dans les transports en commun, vous demandez masque obligatoire dans l'espace public.
Oui.
C'est-à-dire dans la rue, quoi. Partout.
Oui,
partout.
Oui, je pense que partout où l'on côtoie du public, où l'on croise du public, eh bien, il faut porter un masque pendant quelques semaines, tant qu'on considère que c'est nécessaire. Et je pense, en l'occurrence, que c'est nécessaire. Et je pense même, je vais vous dire, que toutes ces mesures-là auraient dû être mises en œuvre dès le début de la crise sanitaire, que toutes ces mesures auraient dû être mises en œuvre pendant le confinement. On aurait dû profiter des 2 mois de confinement pour tester l'ensemble des gens qui travaillaient. Pour
tester les Français.
Mais tester tous ceux qui travaillaient pour voir si le virus continuait à circuler chez les gens qui travaillaient, ce qui est un fait en réalité. Le virus continuait à circuler pour pouvoir les isoler.
Et il continue à circuler.
Pour pouvoir isoler et les traiter. Donc depuis le début de cette crise sanitaire, je vous l'ai dit, en désaccord total avec les choix qui ont été faits par le gouvernement. J'ai dit ce qu'il me semblait devoir être fait. J'ai assumé mes responsabilités.
Mais je vais y revenir.
D'autres ne l'ont pas fait. Je continuerai à le faire parce qu'encore une fois, je pense que c'est de ma responsabilité.
Gratuit les masques remboursés par la sécurité sociale?
Oui, bien sûr. Enfin, à partir du moment où nous sommes confrontés à une maladie qui tue et que nous n'avons pas, semble-t-il, de médicaments, en tout cas le gouvernement n'a pas souhaité mettre en place des traitements à destination de ceux qui sont malades, eh bien, je pense que la moindre des choses, c'est de considérer que le masque est un médicament. Et d'ailleurs, Monsieur Bourdin...
Comme le préservatif.
Mais Monsieur Bourdin, c'est ce que nous avons défendu à l'Assemblée nationale. Mmh. Nous avions demandé que la TVA ne baisse pas seulement à 5,5, ce qui a déjà été un débat qui a duré quand même assez longtemps, mais à 2,1, c'est-à-dire la TVA des médicaments. Que nous a répondu le gouvernement? Ah non, parce que l'Union européenne nous l'interdit. Voilà.
Donc 5,5, oui, comme, je disais, comme le préservatif, qui doit être remboursé.
Ça me paraît être une évidence. C'est le seul moyen de protection actuellement qui est à la disposition de la population française.
L'ouverture des parcs et jardins à Paris et dans toutes les villes, zone rouge, oui ou non?
Ça dépend des parcs et jardins. Si vous me permettez, là, il faut vraiment faire du pragmatisme.
Si Anne Hidalgo demande cette ouverture à Paris.
Mais si le parc est un grand parc et qu'on met en place un circuit de circulation, pour que les gens ne se croisent pas, parce que c'est ça le souci dans un parc, c'est les gens qui se croisent. Qu'il n'y ait pas de position statique dans le parc, un peu comme sur les plages en quelque sorte. On ne s'arrête pas, on ne pique-nique pas dans le parc.
Des plages dynamiques, quoi. Parcs dynamiques.
Voilà, exactement. Oui. Et si évidemment le port du masque est obligatoire.
Comment voulez-vous imposer, comment voulez-vous contrôler toutes celles et ceux qui seront dans les parcs et qui... ne devront pas piquer, ne devront pas, je ne sais pas.
Je peux vous donner 2 millions de lois vous me direz comment est-ce qu'on est-ce que vous faites respecter le port de la ceinture de sécurité, le refus
donc,
de téléphoner au volant.
Donc des amendes. Bon,
d'abord, moi, je compte.
Donc des amendes.
Non, mais pardon. D'abord, moi, je compte sur le civisme des Français. Et contrairement à ce qui a été dit, je suis désolé, mais ils ont été mis un peu quelque part en prison pendant 2 mois. Et dans l'immense majorité des cas, ils ont parfaitement respecté.
C'est ce que tout le monde
confinement.
Dit. C'est ce que
alors il faut arrêter dit. De les culpabiliser, arrêter de les traiter comme des enfants. Et s'il y a des gens qui contreviennent aux règles, qui sont les règles de protection sanitaire de tous, eh bien ils auront une amende. De la même manière qu'on se gare pas au milieu de la rue, qu'on coupe pas la ligne jaune
Même chose pour ceux qui ne porteront pas leur masque.
Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais déjà, je crois que 7 Français sur 10 portent le masque. Et beaucoup n'en ont pas, Monsieur Bourdin. Elle est là, la réalité. C'est que malgré les grandes promesses du gouvernement, Il n'y a pas assez de masques à disposition. Heureusement qu'il y a les entreprises qui en ont acheté. Heureusement qu'il y a les mairies qui n'ont pas attendu le gouvernement et qui en ont acheté. Les régions qui en ont acheté. Parce que sinon, combien de masques seraient à la disposition des Français au moment où nous nous parlons ?
Alors, justement, ça me conduit à ma prochaine question. Est-ce que le gouvernement a menti sur tout ? Est-ce que le gouvernement a failli sur tout ?
À peu près, oui.
Oui. Il a failli sur tout, il a menti sur tout.
À peu près sur tout, oui.
Oui, sur
oui.
tout.
Oui,
vous voyez, à aucun moment, une prise de décision qui vous a paru favorable.
Il va falloir réfléchir.
Ou utile, ou nécessaire.
Mais souvent, les bonnes décisions ont été très tardives, M. Bourdin. C'est-à-dire que c'est sous la pression, en quelque sorte, souvent de l'opposition, parfois d'ailleurs de la presse, que le gouvernement a fini par prendre des décisions qui apparaissaient être des décisions intelligentes et efficaces. Le problème, c'est que dans une crise sanitaire...
On change d'avis quand on est responsable politique. Non, ça arrive.
Oui, enfin, c'est,
ça vous arrive, ça arrive à tous les responsables politiques. Mais
enfin, le mieux, c'est
moi, je me souviens de 2010, quand vous parliez, quand vous disiez qu'on avait trop de masques.
C'était
en 2010, non, c'est pas ça ?
Non.
La France a acheté sans raison trop de masques.
Non, mais il y avait un milliard de...
H1N1.
Non, mais attendez. Il y avait un milliard de masques, et le problème n'était pas tant les masques, d'ailleurs, M. Bourdin. Le problème, c'était les... À l'époque, c'était le vaccin.
C'était un virus.
Non, mais c'était le vaccin, le problème. Bon.
On avait... C'était un virus.
Non, pardon. On va revenir là-dessus.
Si vous voulez.
Au lieu d'acheter on avait acheté en urgence des vaccins à Sanofi, me semble-t-il. Dans des conditions qui relevaient du grand n'importe quoi. Ça n'a pas fonctionné. Les vaccins n'ont pas pu être livrés. Du coup, on s'est tourné vers des Anglais. Et on a acheté les vaccins une somme colossale. Donc, tout mis bout à bout, effectivement.
Mais vous avez dit quand même, la France a acheté sans raison trop de masques.
Ça avait coûté très cher.
Vous l'avez dit.
On s'est retrouvés, là, pour le coup...
Vous l'avez dit ou pas ?
Mais encore une fois, nous n'étions pas dans la situation
d'alerte. Vous voyez que les politiques changent d'avis, mais tous les responsables politiques, Marine Le Pen...
Excusez-moi, Monsieur Bourdin.
Oui, Marine Le Pen, oui.
En décembre, le président de la République est informé de la gravité de l'épidémie. En décembre, d'accord ? Moi, fin janvier, je suis déjà tard. Je n'ai pas d'informations, moi, qu'a le gouvernement.
Vous fin prenez janvier, le port du masque, déjà.
Non, fin janvier, je demande la fermeture des frontières. J'évoque la pénurie de masques, j'évoque la pénurie de médicaments, etc. Et je suis pourtant dans l'opposition et je n'ai pas accès à toutes ces informations. Oui. Donc, oui, sur les masques, le gouvernement a failli. Sur les tests, le gouvernement a failli. Sur les respirateurs, le gouvernement a failli. Je suis désolé, je suis obligé.
Mais vous préférez aussi que le premier tour des municipales soit maintenu.
Et qui a dit ça ?
Vous ?
Non, je n'ai pas dit ça.
Ah bon ?
Non, je
vous
n'ai pas...
Que vous n'avez jamais dit ça. Vous avez jamais été favorable au maintien du premier tour des municipales. Jamais.
Mais monsieur Bourdin.
Oui, monsieur.
J'ai fait mieux que ça. J'ai fait mieux que ça.
Vous avez dit qu'il ne faut pas organiser le premier tour des municipales.
Non, monsieur Bourdin, je suis dans l'opposition.
Oui.
C'est le gouvernement qui annule ou qui maintient.
Oui,
moi, je ne suis pas là pour dire aux électeurs, écoutez, mes électeurs, n'allez pas voter aux élections municipales.
Vous vous êtes exprimé,
vous savez ce que j'ai fait ? Oui, je me suis exprimé, je vais vous dire ce que j'ai dit. Non, mais puisque c'est mon procès. Moi qui ne suis pas responsable de la situation de la crise sanitaire, alors je vais me défendre.
Les contradictions,
Monsieur Bourdin,
on les retrouve chez tous les responsables politiques.
Non. Je sais bien que l'idée, c'est de diluer les responsabilités en disant tout le monde était coupable. Non. Il y a des médecins qui ont annoncé ce qui se passait. Il y a des médecins qui ont raconté n'importe quoi comme M. Simès. Vous voyez, là, il y a des différences. Voilà, je suis désolé. Eh bien, en politique, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai dit avant le premier tour des municipales ? J'ai dit ce premier tour ne peut se tenir que, un, s'il y a des masques à la disposition pour tous les électeurs, pour les assesseurs et les présidents de bureaux. Ça n'a pas été le cas. Et deuxièmement, qu'il fallait faire une grande campagne d'information sur les procurations pour que les gens qui craignaient pour leur santé ou les personnes fragiles puissent voter par procuration. Rien de tout cela n'a été fait. De toute façon, M. Bourdin, le gouvernement ne nous a pas demandé notre avis. Nous n'avons pas été consultés. Par conséquent, on n'a pas eu l'occasion de donner notre avis. Je l'ai pourtant donné à monsieur au Premier ministre et à monsieur Ferrand le samedi soir avant l'élection. J'ai dit, si vous décidez, y compris dans la nuit, d'annuler le premier tour des élections présidentielles, eh bien, je soutiendrai cette décision.
Bien, parlons des responsabilités des politiques. Je regardais le sondage IFOP qui paraît aujourd'hui pour Paris Match et je regardais la forte hausse de popularité du Premier ministre. Je parle pas d'Emmanuel Macron, je parle du Premier ministre, plus 14 points en 2 mois. Comment l'expliquez-vous ?
Je pense qu'il est apparu avec des qualités inverses de celles du président de la République, c'est-à-dire avec une forme de modestie, de clarté qui n'est pas... pas, qui ne sont pas les qualités premières d'Emmanuel Macron.
C'est la raison pour laquelle il est si populaire. Il est à 57% d'opinion positive.
Je pense que les Français apprécient assez peu que le Premier ministre soit considéré comme un fusible et que le Président de la République, manifestement, cherche à se décharger de ses responsabilités alors qu'il a été le maître d'œuvre des décisions prises pendant cette crise sanitaire.
Vous restez au même niveau. Peu importe les sondages.
Je crois que nous sommes dans une crise sanitaire lourde.
Tous les jours, oui.
Oui, mais oui, parce que je pense que honnêtement, ça n'est pas le sujet.
Bon, alors on va passer au sujet.
Nous sommes dans une crise sanitaire lourde. Nous sommes dans une crise évidemment économique et sociale dont nous ne voyons que les premiers effets. Et donc je pense que c'est ça effectivement qui est important aujourd'hui.
Alors parlons de Sanofi. Oui. Vous avez vu Sanofi qui va traiter les États-Unis en première. Enfin, Sanofi qui recule maintenant, hein, sur BFM tout à l'heure, BFM TV tout à l'heure. J'avais reçu le PDG France de Sanofi, mais sur BFM TV tout à l'heure, le PDG a dit « Ah non, mais l'Europe aussi sera servie en même temps que les États-Unis. Vous croyez ?»
Non.
Mais attendez, le gouvernement américain participe à la recherche sur un vaccin, a versé beaucoup d'argent à Sanofi pour travailler sur cette recherche. N'est-il pas logique que les Américains soient servis en premier ?
Non, mais Sanofi n'est plus une entreprise française. Il faut que les Français le sachent. Comme beaucoup d'autres entreprises dont on nous dit que ce sont des fleurons nationaux, en réalité, ce ne sont plus des entreprises françaises. Je crois que nous détenons un Bettencourt 9%. L'État doit avoir 1% de Sanofi. Ouais. En réalité, que font les États-Unis ?
BNP aussi.
Les États-Unis font du patriotisme économique. C'est-à-dire que lorsqu'ils financent une entreprise, ils passent des clauses qui sont des clauses de priorité d'approvisionnement. Ils le font beaucoup d'ailleurs, hein. C'est souvent caché, c'est parfois contraire aux règles de l'OMC, mais aux États-Unis c'est souvent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc ils font du patriotisme économique. Donc la question c'est, est-ce qu'on pleure sur le patriotisme économique mis en place par les autres, ou est-ce que nous aussi on décide d'en faire un peu ?
Les frontières. L'Union européenne demande la réouverture des frontières intérieures de l'Union pour faciliter le tourisme. On a vu des accords entre l'Allemagne et l'Autriche déjà, des accords aussi entre la France et l'Allemagne. Les frontières, les contrôles seront prolongés, mais assouplis pour les frontaliers. Est-ce qu'il faut ouvrir les frontières intérieures de l'Europe ? Je parle de l'espace Schengen, bien sûr.
Il faut d'abord voir quelle est l'évolution.
Faciliter le tourisme.
Non, mais d'abord, permettez-moi de vous dire que les frontières françaises n'ont jamais été fermées. Il faut quand même que, là aussi, les Français le sachent. En réalité, nous avons...
N'ont jamais été fermées pour les frontaliers, oui.
Nos frontières.
Qui travaillent notamment
à l'étranger. Elles n'ont jamais été fermées. Elles ont été fermées, en fait, de fait, puisque nos voisins avaient fermé les leurs. Donc on a été protégés par le bon sens de nos voisins qui ont fermé leurs frontières, certains très tôt, ce qui les a quand même préservés d'une aggravation de l'épidémie sur leur territoire. Je pense à la Pologne, je pense au Danemark, qui ont été les premiers à maîtriser, à fermer leurs frontières. Donc nos frontières n'ont jamais été fermées. C'est-à-dire que des avions continuaient à arriver, et notamment des Pays-Bas, pendant le confinement, alors que les Pays-Bas avaient une gestion assez laxiste de l'épidémie. Donc nos frontières n'ont pas été fermées. Par conséquent, on ne peut pas les réouvrir puisqu'elles ne sont pas fermées. Et je le regrette. Je pense qu'elles devraient être contrôlées, qu'il devrait y avoir des contrôles sanitaires qui soient mis en place à l'arrivée.
Vous demandez la mise en place d'un passeport sanitaire pour entrer en France.
Je demande de deux choses. L'une, soit on a un test démontrant qu'on n'est pas porteur
Si on veut venir en France, on arrive avec un test.
Soit vous êtes mis, comme le font quasiment tous les pays, en quarantaine, le temps de savoir si vous êtes ou non porteur du virus. Or, le gouvernement a décidé que cette quarantaine pouvait éventuellement s'appliquer à des pays étrangers, à des voyageurs de pays étrangers, mais pas aux ressortissants de l'Union européenne. Mais dites-moi, c'est en Europe que l'épidémie est la plus grave. On est le foyer épidémique mondial, de quoi on parle. On voit bien qu'il y a là une idéologie, une défense d'une idéologie, qui est une idéologie contraire à la protection nécessaire des populations.
Donc pas de touristes étrangers, et notamment européens, cet été. Mise en quarantaine de tous les touristes venus d'Europe.
Sauf si, encore une fois, ils viennent avec un test démontrant qu'ils n'ont pas...
C'est un passeport sanitaire.
Et puis il y a toute une série de mesures à mettre en œuvre.
Vous demandez la mise en place d'un passeport sanitaire.
Passeport sanitaire, non, parce qu'on ne vous demande pas... On ne vous demande pas si vous êtes diabétique, si vous avez un cancer, si vous êtes... On ne vous demande pas ça. On vous demande juste de savoir si vous êtes porteur ou non. Oui. Moi, je suis venu là ce matin, Monsieur Bourdin. Oui. On a pris ma température,
oui,
à l'entrée.
Oui.
Eh ben, je trouve ça raisonnable. Pourquoi, oui, est-ce qu'on n'a pas fait ça? Ni avant le confinement, ni pendant le confinement, ni après le confinement, dans les gares, dans les aéroports. Mmh. On ne fait pas cela.
Pourquoi?
À l'entrée des bus, à l'entrée. On ne fait pas cela. Pourquoi ne fait-on pas cela?
Pourquoi dites-vous que l'Europe est le premier mort du coronavirus?
Parce que l'Union européenne a démontré son incapacité totale, son inefficacité totale.
Et pourtant, l'Europe aide comme jamais.
Mais rien.
À la relance économique. Écoutez, comment rien?
Écoutez, l'Italie a été obligée d'en appeler à la Russie et à la Chine pour pouvoir obtenir une aide sanitaire. Qu'a fait l'Union européenne?
Qui n'a pas voulu? Alors là, Marine Le Pen, vous tombez très bien, mais qui n'a pas voulu en Europe accorder d'aide économique à l'Italie? Qui?
Non mais
qui? Quels sont les pays?
Mais non mais arrêtez, mais arrêtez.
Mais quels sont les pays? Je vous pose la question.
Arrêtez de me raconter ça. On est en situation.
La Pologne.
Mais
l'Allemagne.
On est en situation.
La Hongrie.
On est en situation de crise sanitaire. Je vous parle
les
des éléments
souverainistes.
Médicaux.
La Pologne, la Hongrie, qui n'ont pas voulu que l'Union européenne aide l'Italie.
Mais non mais mais vous me racontez, vous mélangez absolument tout.
Absolument pas.
La situation de l'Italie s'est retrouvée, l'Italie s'est retrouvée dans une situation catastrophique. Mmh. Elle avait besoin de matériel médical. Mmh. Elle s'est tournée vers l'Union européenne, qui est censée être le chantre de la solidarité. Rien. Mmh. D'accord? L'Union européenne était trop occupée à signer l'accord de libre-échange avec le Mexique, à signer l'accord de libre-échange avec le Vietnam, à ouvrir des chapitres de négociation pour faire entrer l'Albanie et la Macédoine du Nord dans l'Union européenne, c'est-à-dire en décalage total avec les préoccupations. Ils n'ont servi à rien.
Assouplissement de la politique monétaire, critères de Maastricht abandonnés, des milliards.
Ben oui, ah, c'est merveilleux. Alors donc, en réalité, la seule réalisation de l'Union européenne a consisté à abandonner les règles qu'elle avait elle-même imposées
pour relancer l'économie
aux États.
Combien de centaines de milliards?
Mais dites-moi, Monsieur Bourdin,
oui,
on nous a bien imposé une banque centrale européenne. Mmh. Nous n'avons
donc
plus de banque centrale nationale.
Elle est là pour ça.
Mais c'est son job. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle le fait bien.
Elle fait ce que font toutes les banques centrales.
Est-ce qu'elle le fait bien?
Ah, on verra ça, parce que il y a aujourd'hui un débat avec l'Allemagne. Justement, on est au cœur nucléaire d'un questionnement sur l'euro. Mmh. Est-ce que la Banque Centrale Européenne a le droit de faire ce que font les autres banques centrales?
Vous souhaitez qu'elle ait le droit?
Moi, je pense.
Plus d'Europe, donc.
Mais non, mais ça n'a rien à voir avec plus d'Europe.
Ben,
la question, c'est: est-ce que la Banque Centrale Européenne peut créer de la monnaie et, au lieu de la donner systématiquement au système bancaire, comme elle le fait depuis la crise financière, est-ce qu'elle peut l'injecter dans l'économie réelle? Oui, moi, je préfère que ce soit dans l'économie réelle. C'est d'ailleurs ce que j'ai proposé, Monsieur Bourdin, puisque j'avais proposé que les TPE-PME puissent bénéficier de 10 milliards issus de la création monétaire des 350 milliards de la BCE, et que la Banque de France puisse distribuer à l'ensemble des entreprises de moins de 1000 salariés 1 500 € de forfait et 1 000 euros par salarié tout de suite pour préserver leur liquidité. Ça n'a pas été le choix du gouvernement. Je le regrette, parce que nous avons aujourd'hui évidemment des centaines de milliers d'entreprises qui sont dans de très lourdes difficultés.
Un mot d'économie, prolonger le chômage partiel. Il faut le prolonger, Marine Le Pen.
Oui, bien sûr,
absolument. Même si ça coûte une fortune.
Oui, mais il faut le prolonger. Mmh. Et il faut le prolonger en tenant compte que le déconfinement n'est pas la reprise de l'activité. Il faut que Madame Pénicaud comprenne qu'il y a des tas d'entreprises qui n'ont pas pu faire revenir l'intégralité de leurs salariés, et dont évidemment les revenus vont être tout à fait amputés par les règles sanitaires qu'on leur demande de respecter. C'est normal.
Il faut inciter, il faut pousser à la reprise du travail. C'est ce que disent les Républicains. Vous êtes d'accord avec eux ou pas?
Mais ça veut dire quoi, ça? C'est encore la vieille idée qu'en fait les Français n'ont pas envie de travailler, qu'ils traînent des pieds, mais ils vont arrêter avec ça? Et est-ce qu'ils vont arrêter avec cette vision qu'ils ont des Français? Tous les Français ont envie de travailler. Aujourd'hui, la grande peur des Français, Monsieur Bourdin, c'est le chômage. C'est pas de retourner au travail, permettez-moi. C'est d'abord leur santé, parce que évidemment c'est essentiel, mais c'est aussi évidemment de pouvoir nourrir leur famille.
Et j'ai une dernière question sur les municipales. Il faut que le second tour se tienne en juin ou pas? Absolument.
Est-ce que le gouvernement est capable de nous faire la promesse qu'il tiendrait d'offrir à chaque électeur un masque pour aller voter à l'entrée du bureau de vote, et des masques FFP2 pour les assesseurs et les présidents de bureau? Oui ou non? Si c'est non, alors je pense que nous risquons une très lourde abstention, puisque 80% des Français sont encore très inquiets de cette crise sanitaire. Et la sincérité d'une élection est quand même liée au taux de participation.
Merci Marine Le Pen, il est 8h55, RMC, BFM TV le matin.